Chapitre 3. La mine avait fait explosion sous les pas des fugitifs, des blocs de granit s'étaient effondrés. Et maintenant, les corps déchiquetés d'Hermann, de Milochon, de Luré et de Volette gisaient là, en attendant qu'ils devinssent la proie des vautours. De l'expédition de Blangard, il ne restait plus qu'Inès, Jacques, le vieux savant et Bille. La jeune fille évanouie avait été portée à l'écart et Don Sanche s'occupait à la faire revenir à elle. Ce ne fut pas très long, les beaux yeux noirs s'ouvrirent bientôt et rencontrèrent tout d'abord le regard anxieux de Don Miguel. « Enfin, enfin, mon Inès !» s'écria Jacques en couvrant de baisers le visage de sa sœur. « Tout est fini, tu es sauvée !»«
Sauvée ! Oh, que Dieu est bon de m'avoir exaucée ! Et c'est vous, monsieur ! Oh, merci, merci !»
Ses petites mains, toutes tremblantes, se tendaient vers Don Miguel. Il se courba profondément et y posa ses lèvres. « J'ai eu ce bonheur, mademoiselle, mais je suis royalement remerciée maintenant. »«
Et vous êtes blessée ? » s'écria-t-elle, en remarquant alors que la main gauche du jeune homme était entourée d'un mouchoir sur lequel se voyait une large tache de sang.
« Oui, ce coquin a réussi à me faire une safilade. » « Don Sanche va s'occuper de cela, maintenant que vous voilà plus vaillante. »«
Mais eux, où sont-ils ? » murmura Inès en jetant autour d'elle un regard plein d'angoisse.
« Vous n'avez plus rien à craindre d'eux, mademoiselle. »«
Est-ce que vous les avez tués ? » ?»«
Ils se sont précipités eux-mêmes vers la mort. Plus tard, nous vous expliquerons comment. Restez bien tranquille maintenant, sans vous tourmenter de rien. » Et il s'éloigna discrètement avec le médecin, laissant les deux jeunes gens à leurs épanchements. Lorsque Don Sanche eut pansé sa blessure, il revint vers Inès. « Mes hommes ont emporté quelques provisions. Vous plairait-il d'en prendre votre part, mademoiselle ?» Inès le remercia en refusant. Elle se sentait si lasse qu'il lui serait impossible de rien avaler. « Nous allons nous restaurer un peu et nous partirons aussitôt, dit Don Miguel. » « Il faut que vous vous reposiez le plus tôt possible. Puis, ce volcan m'inquiète. » Le ciel s'obscurcissait, en effet, par suite probablement d'une pluie de cendres qui devait provenir de l'autre flanc du volcan. De temps à autre, une lueur surgissait, des détonations semblables à un feu de salve se faisaient entendre. Pressés par leur chef, les hommes avalèrent hâtivement quelques bouchées de nourriture. Puis la petite troupe reprit en sens inverse le chemin parcouru tout à l'heure. Don Miguel portait Inès, trop faible pour pouvoir marcher. Malgré sa blessure, il n'avait pas voulu céder à d'autres cette mission. « Vous me remplacerez quand je serai fatigué, avait-il dit à Don Sanche, et vous m'aiderez dans les endroits difficiles. » Bientôt, on atteignit la salle où le cadavre d'Anatole de Blangard gisait au milieu du plus fabuleux amador qu'ait pu rêver imagination humaine. Don Miguel et ses compagnons la traversèrent rapidement, longèrent le couloir rocheux et se trouvèrent hors de la caverne. La pluie de cendres augmentait car l'obscurité se faisait plus profonde. Au moment où Don Sanche, qui venait le dernier, mettait le pied hors de la caverne, une effroyable détonation retentit. D'un cratère, soudain ouvert sur ce flanc du volcan, surgit un immense panache de flammes. Puis un fleuve de lave commença à descendre avec une vitesse terrifiante. « Vite, vite !» cria Don Miguel. Il bondissait dans le sentier, l'escaladait malgré son fardeau. Derrière lui, les autres l'imitaient, haletant de terreur. « Nous sommes perdus !» murmura Inès en voyant la nappe brûlante qui approchait. « Non, pas encore !» La lave arrivait sur eux. D'un élan désespéré, Don Miguel bondit dans le sentier. Les autres, qui n'avaient pas son fardeau, se trouvèrent en même temps près de lui. Le terrible fleuve passa à quelques mètres d'eux et s'écoula sur la pente. Mais tout n'était pas fini. Une autre coulée de lave pouvait se produire. Puis le volcan lançait d'énormes pierres et déjà, Don Sanche avait failli en recevoir une. Enfin, une autre perspective terrible existait.
Si la pluie de cendres se produisait par ici, c'était la mort, la terrible mort par l'étouffement. Aussi, tout se hâtait-il. C'était une escalade folle, des efforts surhumains.
« Laissez-moi, laissez-moi, Don Miguel !» murmura Inès. « Peut-être pourrez-vous vous sauver seul. »
« Que m'importerait de mourir si je pouvais à ce prix vous sauver ?» Inès poussa tout à coup un cri. Un des hommes venait de s'affaisser, frappé par une énorme pierre échappée au volcan. Et voici que la pluie de cendres commençait. Dans quelques instants, ce serait fini. Un dernier effort, et tous, haletants, se trouvèrent dans le boyau rocheux.
« Ne vous arrêtez pas ici !» cria Don Miguel. « Allez, allez encore !»
C'était, en effet, le point où l'air, par suite d'une configuration particulière, commençait à se raréfier. Donnant l'exemple, Don Miguel continua d'avancer. Fort heureusement, le sol descendait cette fois, et en peu de temps, la petite troupe se trouva près de l'orifice, devant lequel pendait toujours l'échelle. Don Miguel étendit à terre Inès à demi évanouie et se laissa tomber sur le sol. Il venait d'accomplir des efforts surhumains et, un court instant, la défaillance avait raison de ses muscles d'acier. Don Sanche, surmontant sa propre faiblesse, lui donna ses soins, ainsi qu'à Inès et à Jacques, qui étaient littéralement anéantis. Les hommes, du reste, ne semblaient pas beaucoup plus vaillants. Mais, au bout de 5 minutes, Don Miguel se redressait. Son extraordinaire énergie avait promptement raison de cette faiblesse passagère. Il se dirigea vers une petite anfractuosité et Jacques, qui le suivait machinalement des yeux, eut un sursaut de stupéfaction en voyant là un poste téléphonique. Oui, un poste téléphonique qui reliait le mystérieux passage au camp de Solepto et permettait de demander de l'aide en cas de nécessité. C'est précisément ce que faisait en ce moment Don Miguel en ordonnant à Don Esteban de venir avec quelques hommes sûrs pour aider les membres de la petite troupe affaiblis par leur fuite devant l'épouvantable mort qui les menaçait. 2 heures plus tard, tous étaient rentrés au camp et pouvaient songer au repos. Le lendemain matin, le bruit se répandit dans Solepto que Mademoiselle de Brévis avait une fièvre cérébrale. C'était Bille qui en avait le premier apporté la nouvelle, après avoir été s'informer près de Don Sanche. Vous comprenez, elle a dû avoir une secousse en se voyant emportée comme ça par ces misérables. Et puis, ce vieux père volcan qui s'avise de se réveiller et de cracher sa bile, ça lui a fait encore des émotions par là-dessus. Elle est bien courageuse, la pauvre petite demoiselle, mais ça n'a pas une santé de fer, dame. Tout de même, si elle n'en guérit pas, ça me ferait une fameuse peine, ajoutait Bille. Jacques, désespéré, ne quittait pas sa sœur, qu'Alonce a soignait avec un dévouement passionné. Don Sanche luttait avec tous les efforts de sa science contre la mort qui voulait saisir cette jeune fille, si sympathique à tous, et dont il avait pu, mieux que d'autres encore, apprécier l'exquise délicatesse d'âme et les qualités charmantes. Plusieurs fois par jour, il se rendait chez Don Miguel pour lui donner des nouvelles de la malade. Le jeune homme montrait à tous un visage impassible comme toujours, mais devant Don Sanche, il laissait voir quelque chose de son angoisse et de sa douleur. « Je ne croyais pas l'aimer encore tant que ça, » dit-il un soir que le médecin avait trouvé Inès plus mal. Et pourtant, en bonne logique, que m'importe qu'elle meure, puisque jamais elle ne pourra être à moi. Je devrais même le désirer, car ainsi elle ne serait pas la femme d'un autre. » Ce même soir, Don Sanche, en retournant un peu plus tard près de sa malade, vit venir à lui Alonce. L'Indienne lui saisit le bras en murmurant d'une voix rauque « Vous allez la sauver, dites, Seigneur. Il ne faut pas qu'elle meure. Oh non, non, ce serait la faute de... » Le nom de la coupable mourut sur ses lèvres. En se tordant les mains, elle balbutia « Je souffre tant de cette pensée que c'est elle, c'est ma fille qui a livré le secret de notre bien-aimée Cabecilla. Et puis aussi, je pense qu'elle va mourir. Et malgré tout, c'est ma fille, Seigneur. Sa mort sera ma mort. Peut-être, si la jeune seigneurie t'a guéri, le maître aura-t-il pitié et accordera-t-il la vie à Vicenta. Mais si elle meurt, oh, jamais il ne pardonnera.
Ma pauvre femme, je fais tout ce qui est humainement possible. Si Doña Inès passe cette nuit, elle a beaucoup de chances d'être sauvée. Et alors, comme vous le dites, le maître se laissera peut-être fléchir, surtout si vous faites demander cette grâce par Doña Inès. Ce fut une nuit de terrible angoisse. Don Sanche ne quitta pas sa malade, en proie à une excitation effrayante. Jacques, à genoux près du lit de sa sœur, priait de toute la ferveur de son cœur. Mais quand, vers l'aube, Don Miguel, fou d'anxiété, vint s'informer des nouvelles, le médecin lui apprit que le calme était venu et qu'il avait maintenant un très grand espoir de sauver la jeune fille. De fait, dès ce moment, un grand mieux se manifesta et ne se démentit plus. Le jour arriva enfin où Inès, bien pâle, bien maigrie, mais toute charmante dans sa grâce languissante de jeune convalescente, put venir s'asseoir à l'air, non loin de l'entrée des grottes, sous une petite tente que Don Miguel avait fait dresser pour elle. Le bon monsieur Hamlet et Bille, qui n'avaient cessé eux aussi d'aller aux nouvelles, accoururent, tout heureux de la revoir. Bille s'exclama. « Ce que vous êtes gentille, mademoiselle Inès, avec vos cheveux coupés. Vous avez l'air tout enfant comme ça, mais vous avez fameusement besoin de vous remplumer. C'est heureux qu'on ait ici de si bonnes cuisines. La vôtre, surtout, est du nanan à ce qu'il paraît. C'est que le maître a un chic cuisinier. J'ai causé avec lui, pas avec le maître, avec le cuisinier. Il m'a raconté ses malheurs. » Cet homme-là, figurez-vous, était le cuisinier d'un grand-duc ou de quelque chose comme ça. Puis, un jour... « Voilà Don Miguel !» annonça Jacques qui se tenait assis près de sa sœur. « Bon, je me défile alors. »« Pourquoi donc ?» interrogea Inès, dont le teint pâli s'était rosé lorsqu'elle avait aperçu de loin la haute silhouette du jeune chef. « Avez-vous peur de Don Miguel ?»«
Peur non, mademoiselle, mais ce qu'il m'intimide... »
« Oh, Bille, de la timidité, vous !» s'exclama Jacques en riant. « C'est comme ça pourtant, monsieur Jacques. Bille a trouvé son maître, un maître qui le ferait marcher la tête en bas si ça lui plaisait. »«
Alors, votre fameuse devise « ni Dieu ni maître » ?» interrogea Inès.
« Ben, voilà, elle est dans les vieilles lunes. Un maître, j'en ai un. » Un bon Dieu, je finirai peut-être par y croire si vous restiez ici pour m'éduquer à ce sujet, mademoiselle. Mais faites excuse, je vous tire ma révérence. V'là le chef, et je me sens trop petit devant lui.
Jacques éclata de rire et Inès lui fit écho, tandis que Bille s'esquivait prestement, non sans avoir lancé un grand coup de chapeau dans la direction où s'avançait Don Miguel.
« Vraiment, mademoiselle, je suis ravi de vous voir cette gaieté, » dit le jeune homme en arrivant devant Inès. « Voilà qui me prouve mieux que tout votre rétablissement. Est-ce ce bon diable de Bille qui vous fait rire ainsi ?» On lui raconta la cause de cet accès de gaieté, ce qui l'amusa beaucoup. Puis, interrompant d'un air d'aimable autorité les remerciements chaleureux d'Inès, il mit la conversation sur un autre terrain, voulant éviter, comme l'avait recommandé Don Sanche, de ramener l'esprit encore fatigué de la jeune convalescente sur les angoisses de son enlèvement et de sa délivrance. Il se montra charmant causeur, plein d'esprit et de verve, et vraiment, en face de ce parfait homme du monde, Inès devait faire par moments effort pour se souvenir qu'elle n'était pas dans un salon parisien, mais bien dans un repère inaccessible des Andes, au pouvoir d'un chef aventurier. Un observateur eut remarqué que la gaieté de Don Miguel était un peu forcée. Inès eut cette impression vers la fin de sa visite, de même qu'il ne lui échappa pas qu'une expression soucieuse et triste venait par instant obscurcir son regard. « Vous voilà obligé de rester ici quelque temps encore, jusqu'à ce que vous soyez plus forte pour supporter le voyage. » dit-il en prenant congé d'elle. « Mais il n'est pas en mon pouvoir d'écarter de vous cet ennui. »«
Ennui bien léger, rassurez-vous, monsieur. Vous avez tout fait pour nous rendre charmants le séjour de Solepto. »« vous êtes trop bonne de me rassurer ainsi. Mais je comprends que vous ayez hâte de voir finir cette situation et, aussitôt que possible, je vous mettrai tous deux sur la route du retour.
Je regretterai Solepto et vous surtout, Don Miguel, s'écria Jacques en saisissant la main du jeune homme.
Mais nous pourrons vous revoir à Paris ?
Le front de Don Miguel eut une brève contraction. Une lueur douloureuse traversa un instant son regard.
Non, car vous ne verriez plus en moi le comte de la Roche-Gléon, mais seulement le roi des Andes, et celui-là devra demeurer pour vous dans l'oubli.
Il s'inclina devant Inès et s'éloigna, suivi par le regard surpris de Jacques.
Il a l'air étrange, ne trouves-tu pas, Inès ?
Mais te voilà toute pâle, ma chérie. Tu me sembles fatiguée.
Oui, je le suis un peu. Je vais me reposer sans parler.
Elle appuya sa tête contre l'oreiller qui garnissait son fauteuil et demeura immobile. Pourquoi donc se sentait-elle si triste, si triste ? Pourquoi les larmes, sous les paupières baissées, remplissaient-elles ses yeux ?
Voyons, ce n'était pourtant pas la perspective de quitter Solepto qui pouvait lui produire cette impression. Si bien soignée, si entourée d'égards qu'elle fût ici, ce n'était après tout qu'une prison, et le roi des Andes n'était pour elle qu'un geôlier.
Un geôlier ?
Non, ce terme était impossible à appliquer à cet homme étrange, à ce grand seigneur plein de courtoisie et d'attention délicate. Et elle devait surtout se rappeler toujours que Don Miguel avait risqué sa vie pour la sauver. Un frisson de terreur la secoua à la pensée des terribles angoisses de cette journée. Toujours, elle reverrait les frayantes coulées de lave, elle se rappellerait la fuite éperdue. Là-bas, le volcan faisait toujours entendre ses grondements. Mais il ne menaçait plus Solepto. D'ailleurs, l'éruption semblait entrer depuis 2 jours dans une période de décroissance. Son maximum d'intensité avait été atteint le jour où Don Miguel s'était porté au secours de sa jeune prisonnière.
Une face de ce vieux coquin de volcan qui était pour sûr complice de ces sacripants de Blangard, disait plaisamment Bille. Mais le maître lui a montré qu'il était plus fort que lui.
Le lendemain de ce jour, Inès vit, vers le matin, entrer dans sa chambre à l'ONS. Tout de suite, elle remarqua le visage décomposé de l'Indienne et le tremblement qui agitait tout son corps.
« Qu'avez-vous, ma pauvre Alonce ? » s'écria-t-elle en se levant pour aller vers elle.
Alonce balbutia d'une voix rauque.
« Le cabecilla a condamné hier soir Vicento à mourir. »«
Est-ce possible ? Oh, Alonce, il ne serait pas si cruel. »«
Il en a le droit. Elle l'a trahi. » Mais j'espérais qu'il se souviendrait un peu qu'elle était sa sœur de lait et qu'elle lui était dévouée, oh, si dévouée, elle l'aurait servie à genoux.
Mais si vous alliez solliciter son pardon, Alonce, il ne pourrait pas vous le refuser.
J'ai essayé, mais il ne veut pas me recevoir, gémit l'Indienne. Lui qui était toujours si bon pour moi, qui me permettait d'entrer souvent chez lui, et qui m'appelait sa chère vieille Alonce.
S'il ne veut pas vous recevoir, c'est qu'il a peur de se laisser attendrir.
Je ne sais pas, mais je suis si malheureuse. Oh, señorita, señorita, si vous le vouliez.
Elle se laissait tomber à genoux en levant vers Inès ses yeux noyés de larmes, pleins d'une supplication brûlante.
Quoi donc, pauvre Alonce ? « Demandez au cabecilla la grâce de Vicenta !»«
Moi, mais je n'ai aucune chance de fléchir Don Miguel. »«
Vous en avez beaucoup, au contraire. D'abord, vous êtes la victime de Vicenta. Puis, le maître ne saura pas vous refuser. Vous pouvez tout lui demander, Doña Inès. »
Inès devint pourpre en répliquant avec un peu de vivacité.
« Vous vous leurrez, ma pauvre femme. Cette tentative serait certainement inutile. »« Si, si, señorita. Oh, je vous en supplie. Essayez, par pitié. Ne gardez pas rancune à ma malheureuse fille. »«
De la rancune ? Non, je lui ai pardonné, ainsi que doit le faire toute chrétienne, et si je pensais vraiment pouvoir obtenir sa grâce, je n'hésiterais pas.
Mais vous le pouvez peut-être. Essayez, Donia Inès, vous seule pouvez oser cela.
Vaincu par les supplications de la pauvre créature, Inès promit. Et quand Jacques vint lui souhaiter le bonjour, elle lui dit
« Je voudrais parler à Don Miguel. Sais-tu par qui je puis lui faire demander un moment d'entretien ?»«
J'irai si tu veux. » Les factionnaires ont reçu l'ordre de me laisser passer et Don Miguel m'a dit très aimablement qu'il me recevrait quand je le voudrais.
« Eh bien, vas-y, mon Jacques !»
Quand le jeune garçon revint, il annonça que Don Miguel aurait l'honneur de se rendre au désir de Mademoiselle de Brévis en venant la trouver après le déjeuner. Inès était assise sous la petite tente lorsque le jeune chef apparut. Son cœur se mit à battre fortement, ses joues s'empourprèrent, symptôme d'émotion qu'elle attribuait à l'effort fait sur elle-même pour tenter cette démarche, par charité pour la pauvre Alonso, par pitié pour Vicenta.
Vous désirez me parler, mademoiselle ? Demanda Don Miguel en s'inclinant respectueusement.
Oui, monsieur, j'ai une requête à vous adresser.
Auparavant, permettez-moi de vous demander des nouvelles de votre santé.
Je suis vraiment plus forte aujourd'hui. L'air est tellement délicieux ici.
C'est pourquoi il ne faut quitter Solepto qu'une fois bien rétabli, dit Don Miguel tout en prenant place sur le siège que lui avançait Jacques.
Daignez maintenant me dire, Donia Inès, ce que je puis faire pour vous être agréable.
C'est une grâce que j'ai à vous demander, la grâce d'une coupable.
Les sourcils sombres eurent un brusque froncement.
D'une coupable ? Vous ne voulez pas parler, je suppose, de Vicenta ?
Mais si ! Ô Seigneur, soyez bon, songez à sa pauvre mère !
C'est impossible, Donia Inès. Cette femme s'est rendue coupable d'une véritable trahison. Elle doit subir le châtiment des traîtres et servir d'exemple à ceux qui pourraient avoir envie de l'imiter.
Mais c'est votre sœur de lait, c'est la fille de cette pauvre Alonso qui vous est si passionnément dévouée.
Elle n'en est que plus coupable. Je pourrais pardonner ce crime à une autre, à elle, non.
Ce fut un instant d'égarement.
Pardon, tout fut prémédité.
Laissez cela, Donia Inès. Ne vous occupez pas de cette femme qui a été cause pour vous de tant de souffrances. Quand il n'y aurait que cela, je ne lui pardonnerai jamais.
Pourtant, moi, j'ai tout oublié. Je ne veux songer qu'à la torture de la pauvre Alonso, aux regrets qui doivent sans doute tourmenter cette malheureuse Vicenta.
Oh, Don Miguel, ne soyez pas impitoyable. Si vous aviez vu le désespoir d'Alonso.
Don Miguel détourna les yeux comme s'il ne voulait pas rencontrer le beau regard suppliant.
Ne cherchez pas à m'attendrir, Donia Inès, c'est inutile. Vicenta a été condamnée hier soir à mort par le conseil que je présidais. La sentence sera exécutée ce soir.
Non, non, ce n'est pas possible. Vous ne ferez pas cela, Don Miguel.
Oh, je vous en prie, soyez bon, pensez à votre pauvre nourrice. Je voudrais tant vous convaincre, vous apitoyer. »
Elle joignait les mains, les larmes emplissaient ses yeux. Don Miguel les vit et une émotion soudaine transforma sa physionomie qui était jusque-là demeurée impassible. Il se pencha un peu et prit la main brûlante d'Inès.
« Eh quoi, je vous fais pleurer ? Donia Inès, que vous êtes peu raisonnable, me demandez pareille chose ?»
Ce n'est rien pour vous, puisque vous êtes tout-puissant ici.
C'est un acte de faiblesse, le premier de ma part.
Non, c'est de la clémence, de la compassion pour une malheureuse un instant égarée.
C'est oui, dites, Don Miguel.
Il se leva et, inclinant un peu sa haute taille, enveloppant Inès du rayonnement de son regard, il murmura
« Ce sera oui, puisque vous le voulez. »
Mais comme vous me rendez faible, Donia Inès.
et avant qu'elle eût pu le remercier, il s'éloignait avec une sorte de hâte.
Quelle victoire, chère sœur ! S'écria Jacques.
Mais le jeune garçon s'interrompit tout à coup en voyant des larmes glisser sur les joues d'Inès.
Qu'as-tu, ma chérie ?
Il se penchait vers elle en entourant son cou de son bras.
Rien, mon Jacques, c'est nerveux, je pense, dit-elle en essayant de sourire. J'ai pris un peu sur moi pour adresser cette requête, puis pour insister. La réaction se produit maintenant. Va chercher Alonso, ça veux-tu ? Il faut lui annoncer sans perdre une minute la bonne nouvelle.
Quand son frère se fut éloigné, Inès appuya son front brûlant contre sa main. Elle venait de comprendre pourquoi elle se sentait par instants si triste, au point qu'elle avait besoin de toute sa foi, de toute son ardente confiance en Dieu, pour réagir contre cette impression. Le regard de Don Miguel avait reflété tout à l'heure, malgré lui, l'amour profond qui remplissait son cœur, et Inès avait, en même temps, vu clair en elle-même. Elle aimait cet étranger qui s'était montré pour elle si bon, chevaleresque même. Elle l'aimait non pas tant encore pour son charme physique que pour ce qu'elle devinait des nobles instincts de cette âme, malheureusement engagée sur une voie périlleuse et visiblement dominée par un orgueil extrême.
« Oh, quelle folie ! Quelle folie ! » murmura-t-elle douloureusement. « Mon Dieu, daignez en guérir votre pauvre petite fille ! Je vous en prie !»